chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous terminons notre série concernant l'évangile de Saint Jean. Nous le terminons un peu d'une façon particulière. Normalement, la question de Marie vient au début. Mais exceptionnellement, vous verrez pourquoi, nous avons pensé, j'ai pensé, de mettre cette étude numéro 10 à la fin de cette série. Dans le dernier chapitre, j'aimerais me pencher sur l'épisode de l'Annonciation, c'est-à-dire le moment où l'ange annonce à Marie qu'elle donnera naissance au Messie. Ce n'est pas, à proprement parler, un événement de la vie de Jésus, et bien sûr, il s'est produit avant tous les autres examinés jusqu'ici. Pourquoi alors l'examiner et pourquoi le faire en dernier? Je désire donc me pencher sur la réaction de Marie face au message de l'ange, car elle est en quelque sorte comme nous. Elle n'a pas encore rencontré la personne terrestre de Christ. Pourtant, elle reçoit un message à son sujet. Il s'agit essentiellement du message de l'Évangile qui est Jésus et ce qu'il fera. Marie réagit de façon magnifique et très touchante. Son exemple remarquable nous donne un aperçu de la façon dont nous devrions réagir à tout ce que nous avons lu au sujet de Jésus dans les 9 études précédentes. Et de tout ce que vous avez pu, vous, chers auditeurs et chères auditrices, entendre durant ces études. Voici donc le récit de l'Annonciation tel qu'il est écrit dans Saint Luc chapitre 1. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David appelé Joseph. Le nom de la Vierge était Marie. L'ange entra donc chez elle et dit « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. » Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici que Élisabeth, ta chère parente, et elle aussi, elle est devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle que l'on appelait la stérile, elle est dans son 6e mois maintenant. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. À la même époque, Marie s'empressa de se rendre dans une ville de la région montagneuse de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès que Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant remua brusquement en elle et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie parmi les femmes, et l'enfant que tu portes est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne vers moi ? En effet, dès que j'ai entendu ta salutation, eh bien l'enfant a tressailli de joie en moi. Heureuse celle qui a cru, parce que ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » Saint-Luc chapitre 1, verset 26 jusqu'au verset 45. Quel renseignement l'ange donnait-il sur l'identité de Jésus? Il l'appelle Fils du Très-Haut. On pourrait parfois vous appeler fils de quelqu'un si vous lui ressembliez ou croyez fortement en lui. Dans Saint Jean chapitre 8, Jésus a une vive dispute avec les chefs religieux qui affirment être les enfants d'Abraham et de Dieu. Ils rétorquent qu'ils ont pour père le diable, puisque tout comme lui, ils ont menti. Cependant ici, l'appellation ne signifie pas seulement que Jésus est un disciple de Dieu. En effet, l'ange ajoute, il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Oui, éternellement. Puis peut-être parce qu'il sait que Marie ne peut pas en croire ses oreilles, il répète la même chose de façon légèrement différente. Il dit « Son règne n'aura pas de fin ». Il dit en substance « Je voulais vraiment dire éternellement ». Ce message contient donc la promesse que l'enfant à naître ne sera pas un roi purement politique, mais aura un royaume d'une durée éternelle. Cela suggère fortement qu'il est plus qu'un simple mortel. Ensuite, l'ange dit, « La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Voilà donc une déclaration fascinante et mystérieuse, n'est-ce pas? C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra, littéralement le saint engendré, sera appelé fils de Dieu. Cet être surnaturel et éternel viendra au monde par le biais d'une naissance miraculeuse. Il sera appelé fils de Dieu, non seulement parce que son caractère ressemblera fortement à celui de Dieu, mais parce que la nature divine, elle se développera dans le ventre de Marie sous une forme physique. Par conséquent, celui qui naîtra sera parfaitement saint, absolument exempt de péché, et il vivra éternellement en tant que personne à la fois divine et humaine. C'est une déclaration absolument stupéfiante et un résumé élégant et concis de ce qu'on appelle aujourd'hui la doctrine de l'incarnation. Dieu s'est incarné lorsque le Fils de Dieu a endossé la nature humaine et est né dans un corps de chair dans le monde. Un deuxième élément que nous apprenons sur lui, c'est que son nom est Jésus, Yahvé sauve. On ne pouvait imaginer non plus un nom plus approprié. Le fondateur de chacune des diverses religions est venu au monde en tant qu'être humain et s'est présenté comme un guide apte à nous montrer le chemin du salut. Aucun d'eux n'a jamais affirmé être Dieu, ni même revendiqué le statut de rédempteur ou de sauveur. Or, la Sainte Bible dit que Jésus est le chemin du salut. Il mène la vie que nous devrions vivre et subit même la mort que nous devrions connaître pour nos péchés. À lui seul, le nom de cet enfant révèle le caractère unique du christianisme en général et de Jésus en particulier. Encore une fois, nous voyons un océan de vérité tenir dans une affirmation on ne peut plus concise, dans un seul nom, en effet, car aucun fondateur de religion n'a jamais affirmé être Dieu, ni même revendiqué le statut de rédempteur ou de sauveur. Ce message rend donc impossible l'affirmation que toutes les religions sont foncièrement identiques. Dans de nombreuses sphères de la société, une forme d'orthodoxie rigide insiste sur cette affirmation. Pour les uns, toutes les religions ont également tort. Pour les autres, toutes ont également raison. Je comprends tout à fait ce qui motive les gens à adopter une telle position. On cherche à prévenir l'attitude de triomphalisme dangereuse que de nombreux groupes religieux, y compris chrétiens, ont adopté avec des résultats souvent tragiques. Néanmoins, l'argument qui veut que le christianisme soit foncièrement identique à toutes les autres religions ne tient tout simplement pas la route, car presque chaque page du Nouveau Testament contient à propos de Jésus des déclarations qu'aucune autre religion n'oserait faire à propos de ce qui que ce soit. Elles sont si fréquentes qu'elles passent même inaperçues parfois. Regardons par exemple ce que Élisabeth dit à Marie. Elle la déclare heureuse d'avoir cru ce qui lui a été dit de la part du Seigneur lorsque il a envoyé l'ange pour lui parler. Or, elle vient juste d'appeler Marie. Elle vient de l'appeler la mère de mon Seigneur. C'est incroyable. Comment l'enfant à naître de Marie peut-il être le Seigneur qui lui a envoyé le message relatif à l'enfant à naître? Élisabeth prophétise donc ici sous la puissance du Saint-Esprit. Il est très peu probable qu'elle-même comprenne pleinement la signification de ces paroles. Cependant, l'implication est très claire. Le bébé à naître est le Seigneur Dieu éternel. C'est celui-là même qui lui a envoyé le message. C'est une affirmation à la fois choquante et frappante, on peut bien le dire. L'idée que les Juifs se faisaient de Dieu était différente de celle d'autres cultures, rappelons-nous. Lorsque la Sainte Bible parle de Jésus comme étant divin, cela ne signifie pas qu'il a une plus grande étincelle de vie divine que chacun de nous. pour Israël, Dieu n'était pas une force impersonnelle faisant partie de tous les êtres, mais il était le Créateur éternel et unique, personnel, mais infini. Il était le Créateur qui a existé avant tous les êtres et se situe au-dessus d'eux. Affirmer que Jésus est divin, en dépit de cette compréhension-là de la divinité, c'est tout simplement stupéfiant. Pourtant, c'est l'élément central de la compréhension qu'il a de lui-même, et cela sous-entend tous ses enseignements. Par conséquent, soit vous devez admettre que Jésus est, comme le déclare la Sainte Bible, le Dieu créateur unique qui s'est fait homme, ce qui fait du christianisme une révélation de Dieu supérieure à celle de toutes les autres religions, soit vous dites qu'il avait tort ou qu'il mentait, ce qui fait de lui et des disciples une très mauvaise révélation de Dieu. Toutefois, le christianisme ne peut pas être assimilé aux autres religions, jamais, voyez-vous. Donc il faut bien noter ce fait. Chaque confession, même celle qui semble ratisser le plus large, émet des affirmations qui lui sont propres. Celles de Jésus sont particulièrement déconcertantes, car leur vérité s'est avérée. Le seul choix possible consiste à se prosterner devant lui. L'annonciation nous confronte à l'exclusivisme de Jésus qui requiert une réponse et qui implique tout un travail de réflexion. L'annonciation est donc un choc pour Marie, aussi bien pour des raisons sociales que théologiques. Elle a probablement 14 à 15 ans et elle est très pauvre. On peut se faire une idée de la place qu'elle occupe sur l'échelle socio-économique de l'époque grâce à l'épisode où elle va au temple avec Joseph pour la circoncision de Jésus. L'offrande à apporter lors de cette cérémonie dépendait de la situation sociale de la famille. Si vous étiez extrêmement pauvre, vous n'offriez que deux oiseaux, et c'est ce que la famille de Jésus fait. Marie fait donc partie du bas peuple. De plus, elle connaîtra le déshonneur lorsque on apprendra sa grossesse. Cette jeune fille simple, exposée au déshonneur, enceinte et célibataire, est aujourd'hui l'un des êtres humains les plus connus de l'histoire du monde. À titre de comparaison, la plupart d'entre nous tomberont dans l'oubli en l'espace de une génération. Qu'est-ce qui la rend si importante? C'est la façon dont elle répond à Dieu et réagit à son message. On peut relever 4 étapes dans sa réaction. La première réaction de Marie consiste à réfléchir. Elle fait appel à la raison. Sur ce point, nous sommes généralement mal aidés par nos traductions. Tout de suite, après l'apparition de l'ange, le texte nous dit qu'elle est troublée par cette parole. Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation, selon Saint Luc chapitre 1, verset 29. Le verbe « se demandait » Cela signifie que l'on utilise la logique, que l'on raisonne avec intensité. Elle cherche à comprendre comment tout cela peut être vrai. Cela peut nous sembler bizarre. De nos jours, nous nous plaisons à croire que nous sommes des gens rationnels et scientifiques. Nous posons des questions difficiles, utilisons la logique et demandons des preuves empiriques, si bien qu'il est impossible pour nous de croire à l'apparition d'un ange. Nous présumons que les populations antiques étaient superstitieuses et n'avaient aucun mal à croire aux choses surnaturelles. Nous tenons pour acquis que si un ange apparaissait, elle disait simplement « Oh, voici un ange, bonjour, quel message nous apportez-vous ?» Ça, c'est une conception arrogante et paternaliste de nos ancêtres, sans parler d'une mauvaise lecture intentionnelle du texte, car Marie lutte et lutte pour comprendre et pour croire ce qu'elle a entendu. Pourquoi cela? Elle est tout d'abord juive. La nouvelle qu'on lui annonce ne s'accordait certainement pas avec ce qu'elle sait. En effet, le message dit qu'un être humain sera divin, que le Dieu du mont Sinaï devient ou devient humain. Et du point de vue de la raison, cela semble impossible pour les Juifs. Cela semble choquant et de choquer leur sensibilité morale. Pardon. C'est donc ce qui explique en partie pourquoi il est si difficile pour Marie de Magdala et pour les disciples d'entendre Jésus quand il leur répète qu'il ressuscitera réellement. Par conséquent, si elle veut croire le message prophétique, les obstacles rationnels auxquels Marie se heurte sont, bien entendu, différents de ceux qu'une personne moderne aurait. Mais ils sont tout aussi grands. Il est tout aussi difficile pour elle, dans son monde, de croire à l'Évangile que ça l'est pour nous aujourd'hui. L'Annonciation représentait et représente toujours un défi majeur pour toutes les visions du monde. Quel que soit l'endroit, quelle que soit l'époque, les êtres humains ont toujours dû surmonter d'énormes obstacles pour croire que le Dieu créateur de l'univers a choisi le ventre d'une jeune fille pour y naître en tant qu'être humain. À chaque moment, cette idée n'a pu s'accorder aisément avec la sagesse prônée à l'époque. L'Annonciation joue donc contre tous les récits culturels et exige un travail intellectuel rigoureux. Marie n'y échappe pas. Elle fait exactement ce que Jésus mettra Nathanaël, l'élève sceptique, rappelez-vous, au défi de faire. Elle soupèse les preuves, elle évalue la cohérence interne des affirmations et conclut que tout cela est bel et bien vrai. Si elle est capable de le faire, eh bien nous aussi, nous devrions être disposés à utiliser notre raison pour évaluer le message chrétien. La deuxième réaction de Marie consiste a exprimé ouvertement ses doutes. Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme? Encore une fois, Marie n'est pas quelqu'un de crédule. Elle ne dit pas, bien sûr, tu es un ange et tout cela est miraculeux. Donc je vais tout simplement l'accepter tel quel. Non, non, non. Elle émet une remarque que toute personne rationnelle émettrait. Elle dit comment pourrait-elle avoir un enfant si elle n'a pas de relation sexuelle? C'est un doute exprimé ouvertement à un ange. Elle désire être honnête, honnête au sujet de ses incertitudes et de ses questions. Je dirais qu'il y a deux genres de doutes. Il y a les doutes malhonnêtes et les doutes honnêtes. Les doutes malhonnêtes sont marqués à la fois par l'orgueil et par la lâcheté. Ils sont le signe de mépris et de paresse. Avoir un doute malhonnête, c'est par exemple dire « quelle idée absurde !» et simplement s'en aller. Ou de dire « c'est impossible !» ou sa version plus contemporaine, c'est « stupide !» Ça, c'est une affirmation, non pas un argument. C'est une façon d'échapper au travail laborieux de la réflexion. Par comparaison, les doutes honnêtes sont empreints d'humilité parce qu'ils vous amènent à poser des questions et pas seulement à ériger un mur. Poser une vraie question vous rend quelque peu vulnérable. Marie demande en réalité des renseignements et cela laisse la porte ouverte à une réponse susceptible de modifier son point de vue. Ainsi, les doutes honnêtes sont ouverts à la croyance. Si vous recherchez vraiment des renseignements et des arguments solides, vous pourriez bien en trouver. Oui, chers amis, les doutes honnêtes sont ouverts à la croyance. Voici ce que je trouve merveilleux. Si Marie n'avait pas exprimé de doute, l'ange n'aurait pas fait une des déclarations les plus importantes que contient la Sainte Bible. Rien n'est impossible à Dieu. Saint Luc, chapitre 1, verset 37. Je lui suis très reconnaissant de son doute, car voyez-vous, cette parole m'a réconforté et m'a guidé pendant de nombreuses années. Elle a été d'un immense secours pour toutes sortes de gens. Pourquoi avons-nous obtenu cette révélation supplémentaire? Simplement parce que Marie a douté. Plus nous sommes prêts à exprimer le doute de façon honnête et humble, plus nous posons nos questions honnêtes, plus nous et notre entourage recevrons de réponses. J'ai vu des tas de gens refuser de poser des questions et d'exprimer leurs doutes. Pour certains, c'est par dureté de cœur, et pour d'autres, parce qu'ils pensent que d'une certaine façon, c'est irrespectueux. S'il vous plaît, ne craignez pas de soulever vos doutes et vos questions honnêtes. La troisième réaction de Marie, elle consiste à céder complètement. Oui, cela doit bien arriver un jour ou l'autre. Après avoir entendu « Rien n'est impossible à Dieu », elle prend, Marie, sa décision. En fait, rien, en effet, n'est impossible à Dieu. Et cela est un bon argument. Crois-tu en Dieu, Marie? Oui. Eh bien, s'il y a un Dieu qui a créé le monde, qui a libéré ton peuple et l'a protégé pendant des siècles, pourquoi ne pourrait-il pas agir maintenant? Et cela lui semble tout à coup logique. Elle dit donc, « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » C'est confirmé par Saint Luc, chapitre 1, verset 38. Les gens me disent parfois, « Oh, j'aimerais bien être chrétien, mais faudra-t-il que je fasse ceci? Est-ce que je devrais cesser de faire cela? Est-ce que je devrais prier, ne plus avoir de relations sexuelles? Est-ce que je devrais quitter mon emploi? Est-ce que je devrais modifier mes points de vue? » Bien sûr, des questions de ce genre ont une certaine légitimité, parce que vous ne pouvez devenir chrétien sans prendre en considération ce qu'il vous en coûtera. Jésus, du reste, lui-même, nous invite à calculer la dépense avant de devenir ses disciples. Notez Saint-Luc, chapitre 14, verset 25 jusqu'au verset 33. Néanmoins, je crains que beaucoup ne souhaitent négocier le coût plutôt que de le calculer. Ils sont prêts à renoncer à certaines choses, mais pas au droit de choisir à quoi ils renoncent. Ils veulent pouvoir analyser constamment les coûts et les profits par rapport à divers types de comportements, ce qui leur permet de rester sur le siège du conducteur, c'est-à-dire sur le trône de leur vie. Un professeur d'école biblique disait, quand on veut suivre Jésus, la chose la plus difficile à donner, c'est à l'intérieur. Lorsque Dieu apparaît à Abraham, il lui dit, Abraham, quitte ta terre natale, quitte ta terre de Chaldée et suis-moi. Abraham lui dit, où vais-je? Et Dieu lui répond en substance, je te le montrerai plus tard. Il veut que le patriarche renonce au droit de déterminer lui-même, par lui-même, la meilleure façon pour lui de vivre. D'une certaine façon, nous devons reprendre les propos de Marie lorsque nous donnons notre vie à Christ. Notre cœur doit délivrer à peu près ce message. Je ne sais pas tout ce que tu me demanderas, Seigneur, mais j'obéirai à ce que tu dis dans ta sainte parole, que cela ne me plaise ou non, et j'accepterai avec patience tout ce que tu enverras dans ma vie, que je le comprenne ou non. Autrement dit, nous ne pouvons tout simplement pas exiger de savoir à l'avance tout ce que Dieu nous demandera. Ainsi, la plupart des gens savent que la Bible nous appelle à ne pas mentir ni de tricher. Or, nous pourrions nous trouver dans une situation où dire la vérité nous coûterait carrément notre carrière et où mentir nous permettrait peut-être de garder notre poste. Dans ce cas, suivre Jésus, cela nous coûtera très cher. Oui, voyez-vous, lorsque nous nous trouvons dans une telle situation, nous devons déjà avoir déterminé quelle sera notre réaction. Comme il est impossible de savoir à l'avance ce qu'il nous en coûtera de suivre Jésus, nous devons simplement dire « Je ne sais pas tout ce qui m'attend, mais je sais une chose, c'est que je renonce au droit de décider si j'accomplirai ou non la volonté de Dieu. Je l'accomplirai de façon inconditionnelle. » Marie ne pouvait certainement pas savoir tout ce qui lui en coûterait, même si elle devait en avoir une vague idée. Et c'est la même chose pour Joseph. Il est intéressant de comparer Saint Luc chapitre 1 et Saint Matthieu chapitre 1. Le premier chapitre de l'évangile de Luc évoque l'Annonciation dans la perspective de Marie, celui de Matthieu dans la perspective de Joseph. Lorsque celui-ci, Joseph, découvre que sa fiancée est enceinte, comme il sait qu'il n'est pas le père de l'enfant, il décide de rompre leur fiançailles. Mais voilà qu'un ange lui apparaît et lui transmet le message de Dieu à son attention. Il doit tout de même épouser Marie. Joseph sait que s'il l'épouse, tous les habitants de leur village, dans une société qui est fondée sur la honte et sur l'honneur, se douteront bien que l'enfant a été conçu en dehors des liens du mariage. Ils savent lire, ces gens-là, un calendrier. De fait, la plupart des amis de Marie pourront constater qu'elle est enceinte avant le mariage. Alors, tôt ou tard, tout le monde présumera qu'ils ont eu des relations sexuelles avant le mariage ou qu'elle lui a été peut-être infidèle, va savoir. Dans un cas où comme dans l'autre, il s'agit d'une violation des normes morales et sociales de cette culture. Ils seront donc toujours des citoyens de seconde zone au sein de la société. Eux-mêmes, ainsi que leurs enfants, seront rejetés par certains et toujours suspects aux yeux de tous les autres. Qu'est-ce que cela signifiait pour Joseph et pour Marie d'accepter la parole du Seigneur et de dire « Nous accueillons l'appel à recevoir cet enfant. Oui, nous acceptons tout ce que cela suppose. Que leur en a-t-il coûté d'accepter littéralement Dieu avec nous ?» Saint Matthieu chapitre 1 verset 23. Que faut-il pour être avec lui, avec Dieu ? La réponse se trouve dans ce texte. il faut du courage et la disponibilité à accomplir sa volonté, quoi qu'il en coûte, en disant à Joseph, « Épouse-la. » L'ange lui dit, « Si Jésus vient dans ta vie, tu seras rejeté. Tu devras dire adieu à ton excellente réputation. » Et il l'a épousée, à n'en pas douter. Certains des amis de Joseph s'exclameront, « Mais pourquoi donc l'as-tu épousée ? » Ou bien, « C'est ton œuvre ? » Ou bien, « Elle t'a été infidèle ?» Pouvez-vous un peu imaginer Joseph en train d'essayer de leur dire la vérité ? Attendez, je peux tout vous expliquer. Elle est tombée enceinte par l'action du Saint-Esprit. Ce sont les anges qui nous ont mis au courant. La vérité, croyez-moi, n'est pas quelque chose que ses amis pourront comprendre, et par conséquent, il sait qu'ils penseront toujours du mal de lui, toujours. Il y a de nombreux endroits dans le monde actuellement où, si vous vous dites chrétien, vous vous retrouvez dans la même situation que Joseph et Marie, même pire actuellement. Même à New York ou à Paris, la foi chrétienne semble tout aussi incroyable et invraisemblable à de nombreuses personnes que l'histoire des anges aux amis de Marie et de Joseph. Si vous parlez ouvertement de votre foi chrétienne aujourd'hui, soit à Paris ou à New York ou ailleurs, dans votre cercle social, le réseau professionnel peut-être, ou dans le domaine professionnel, quel qu'il soit, eh bien beaucoup de vos interlocuteurs ne comprendront tout simplement pas. Non, il ne comprendra pas, et vous ne serez pas en mesure de leur faire comprendre la vérité telle qu'elle. Pourquoi vous êtes comme vous êtes? Car dans bien des cas, votre réputation pourrait en pâtir. Pourquoi, d'après vous, Jésus-Christ est-il venu dans ce monde par l'intermédiaire d'une adolescente célibataire dans une société patriarcale qui est fondée sur la honte et sur l'honneur? Dieu n'était pas obligé de procéder ainsi. Je pense que c'était de façon de dire, je ne fais pas les choses comme le monde s'y attend, mais d'une manière complètement opposée. Ma puissance, elle s'accomplit dans la faiblesse. Mon prince et sauveur, il viendra au monde, non dans le berceau d'un palais royal, mais dans la mangeoire d'une étable. Il ne naîtra pas de gens puissants et très célèbres, mais de personnes simples et méprisées. Tout cela fait donc partie du plan de Dieu. En effet, Jésus va obtenir le salut au moyen de la faiblesse, au moyen de la souffrance et de la mort sur la croix. Il va gagner de la puissance et de l'influence au moyen d'un service porteur de sacrifice. Et si vous l'accueillez dans votre vie, vous serez traité de la même façon. Mais c'est ainsi que mon salut fonctionne. La souffrance, elle mène à la gloire, et la mort, elle mène à la résurrection. Donc, ne craignez rien. Accueillez Jésus-Christ dans votre vie, et je serai votre bonheur et votre honneur. Peu importe ce que le monde pense, Marie et Joseph étaient donc disposés à faire pour Jésus ce que lui allait faire pour eux. Il a été obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Philippiens, chapitre 2, notez le verset 4 jusqu'au verset 11. À l'appel de Dieu, ils ont abandonné leur droit à l'autodétermination. Si vous voulez vraiment Christ au cœur de votre vie, vous devez lui obéir inconditionnellement. Vous devez renoncer au contrôle de votre existence et laisser tomber toutes vos exigences. Vous devez donc renoncer au droit de dire « Je vais t'obéir si, je vais faire cela si. » Car dès que l'on dit « Je vais t'obéir si », on n'est plus du tout obéissant. Ça revient à dire « Tu es mon consultant, tu n'es pas mon Seigneur. Je serai heureux de recevoir tes recommandations. Je pourrais même en suivre quelques-unes. » Non, 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 chers amis. Si nous voulons Jésus avec nous, nous devons abandonner notre droit à l'autodétermination. La quatrième réaction de Marie, qui peut nous enseigner, elle consiste dans son déplacement vers Élisabeth qui lui parle sous la puissance du Saint-Esprit. Cette rencontre doit grandement t'aider. Elle les a aidés. Elle l'encourage certainement et elle l'aide à envisager sa propre situation sous un tout nouveau jour. En effet, après les dernières paroles d'Élisabeth, elle entonne un très beau cantique que l'on appelle aujourd'hui le Magnificat. Elle commence à louer et à adorer. Elle commence à louer et à adorer Dieu de tout son cœur. Oui, mon âme célèbre la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu qui est maintenant mon Sauveur. Saint Luc chapitre 1, versets 46 et 47. Elle puise donc dans l'Ancien Testament, dans les psaumes, dans Ésaïe et dans les autres prophètes, en établissant des liens remarquables qui révèlent la venue du Messie divin. L'annonciation n'est pas contradictoire avec la foi biblique, elle est son accomplissement. Cela, elle le comprend par sa visite à Élisabeth. Nous avons besoin, chers amis, des autres. Marie ne semble pas réellement comprendre ce qui se passe jusqu'à ce qu'elle aille voir une autre sœur croyante, qu'elle parle ensemble et qu'elle adore Dieu ensemble. Comme elle, oui, comme elle, nous avons à réfléchir intensément et à douter ouvertement, pourquoi pas, pour enfin céder complètement. Mais il ne suffit pas de le faire en solitaire, sans aucun ami sur qui nous pouvons compter. Parfois, nous ne voulons pas que les autres soient au courant de nos luttes spirituelles tant que nous ne les avons pas surmontées et nous ne pouvons pas en parler au passé. C'était une époque très difficile. Pourtant, en fin de compte, nous n'y arrivons pas sans aucune communauté. Voyez-vous, je terminerai cette étude par vous dire que nous devons trouver une communauté chrétienne, une église. Oh, vous direz, ils sont tous ceci ou cela. Mais nous, sommes-nous vraiment parfaits? Personne n'est parfait. Donc, n'ayons pas peur de nous approcher d'une communauté chrétienne, d'une église, d'une chapelle. Marie n'était personne et elle est devenue quelqu'un simplement parce que lorsque Dieu est venu à elle, elle a réagi de la façon la plus humble qui soit. Elle s'est servie de sa raison. Elle a douté tout d'abord, elle a cédé, elle a établi des liens avec d'autres personnes. Et vous aussi, vous qui écoutez ce CD, vous pouvez le faire également. Amen. Chers amis, avant de terminer par la prière, j'ai reçu quelque chose de l'Esprit Saint à vous transmettre pour vous aider, pour vous encourager. Voici ce message. Persévérez dans l'amour de Dieu et de Jésus-Christ. Ne recherchez rien pour vous-même seulement. Ne recherchez que ce que vous pouvez utiliser avec le Seigneur. Comptez sur lui pour tout et en tout. Soyez humble, non seulement avec lui, mais aussi avec les autres. Réjouissez-vous de pouvoir servir. Chassez toute espèce d'appréhension en tout. Recherchez la vérité. Soyez plein de joie. Le monde, voyez-vous, a besoin de trouver la joie, non dans les frissons passionnés qu'accompagnent ses plaisirs et ses dissipations, mais dans la beauté de la sainteté qui n'est que la santé en profondeur et dans le ravissement que on éprouve uniquement en Jésus-Christ, d'une tranquille sécurité dans le frémissement que connaissent ses disciples devant l'aventure chrétienne, dans le bonheur qu'assure la victoire, lui, le Seigneur, et le don de soi-même. Apportez donc à votre entourage le témoignage d'une vie assise sur le roc que plus rien jamais peut ébranler. Amen. Et terminons maintenant par la prière. Ô notre Dieu, toi qui es plus disposé à donner ton Saint-Esprit à ceux qui l'invoquent, que le plus tendre Père à satisfaire au désir de son enfant, daigne, selon ta promesse, remplir toujours plus par lui, par le Saint-Esprit, notre cœur de ta présence. Accorde-nous-en, Seigneur, une mesure plus abondante et comme un nouveau baptême. Et après nous avoir sauvés, sauvés par ta pure grâce, par le sacrifice de notre Sauveur, sanctifie-nous pour ton service. Que ton Esprit lui-même explique ta sainte parole à nos cœurs et que la sagesse humaine se taise devant la folie de la croix. Oui, que cet Esprit qui nous a appris à crier « Abba, Père » et qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes tes enfants, éclaire par ses clartés divines tous ceux qui vivent encore dans les ténèbres, afin que, reconnaissant leur état de péché et de perdition, ils se jettent dans tes bras, ô notre Sauveur, et ne trouvent de repos que dans tes compassions infinies. Qu'ainsi, ce jour soit pour nous un jour de consolation et de vie. Demeure avec nous, Dieu vivant. Nous t'ouvrons nos cœurs. Viens, oui, viens les remplir de toi-même et sois avec nous pour nous conduire dans toute ta volonté au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études, et à demain matin, Dieu voulant, pour une toute nouvelle série. Vous serez étonnés, moi-même j'ai été étonné quand l'Esprit Saint m'a montré que je devais encore une fois parler de quelque chose qu'on n'aime pas entendre, c'est-à-dire de l'enfer. À demain matin, Dieu voulant. Au revoir, mes très chers amis.